stationner. Un message de la ville de Sherbrooke.
Conditions actuelles, moins 6 degrés.
Pas si pire pantoute. CFLX 95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Il ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve.
Et oui, toujours ce thème merveilleux de ce grand Félix Leclerc. Et voilà donc ce 4 décembre 2025, oui, déjà le dernier mois de l'année. Une année qui a été remplie de beaucoup de choses au niveau politique, au niveau social, tout ça, évidemment, les élections municipales dernièrement aussi. Alors donc, il y a du sujet en masse comme tel, ça justifie bien sûr d'être là tous les jeudis midi, logement un droit, 4 décembre. Tout à l'heure, dans la deuxième demi-heure, j'aurai des invités. Je vais vous faire quelques petites réflexions ce midi, en rappelant peut-être aux gens aussi, là, vous écoutez, on est une radio, on doit quand même dire, bon, prudence sur les routes quand même, parce que il s'agit donc de respecter la température. On a quelques mois comme ça. Et l'autre jour, il y a deux semaines, quand j'ai reçu justement de la table d'action contre l'appauvrissement en Estrie, Rosalie Dupont, ben c'est ça, j'avais pris de leur page, puis là, la semaine dernière, je ne l'ai pas fait nécessairement moi-même, mais c'est les membres du CHIP qui l'ont fait, puis là, ben, je m'étais engagé à le faire, puis je vais essayer de ne pas faire comme un politicien, mais tenir mes promesses, donc, de rappeler cette reconnaissance du territoire. Oui, donc, les terres où nous sommes présentement, le Nadakina, font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Benaki, de la Confédération Wabanaki. Donc, bien sûr, les conséquences du colonialisme qui marquent encore aujourd'hui les membres des peuples autochtones. Le colonialisme est un nombreux système d'oppression qui engendre des violences sur des populations marginalisées au Québec et à travers le monde. Alors donc, ne pas oublier cette reconnaissance-là du territoire où on est présentement. Un petit texte de réflexion que je vous mettais déjà, si y a des gens déjà qui voient un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour l'émission d'aujourd'hui. Et ce matin, je ne sais pas si Félix a participé, là, je ne suis pas au courant, mais je sais que beaucoup de médias l'ont fait en Estrie, partout au Québec. Bien sûr, la guignolée des médias, la guignolée country, si vous écoutez mes émissions de country, il y a aussi. Et tout ça est orienté bon vers les banques alimentaires. Et on sait, évidemment, malheureusement, et c'est généralisé à travers le Québec. Et dernièrement, M. Monger, qui est le directeur des banques alimentaires au Québec, était de passage, justement, à RDI, à l'émission, entre autres, 24-60 avec Anne-Marie Dussault, ben, rappelait que ça explose. Alors, et dans la presse, puis je vais avoir quelque chose aussi ce matin que j'ai retrouvé aussi, grâce au monde de l'association locataire aussi, un article dans le Journal de Montréal, un peu plus à gauche, je ne sais pas, des fois à droite, et c'est dans la presse, et c'est clair que, justement, qu'avec toutes ces moins manger pour pouvoir se loger, que ça va, je pense avec notre thème logement un droit, l'insécurité alimentaire a fait un grand bond, mais pas nécessairement, c'est pas olympique, là, c'est un bond en avant dans les dernières années, notre une étude. Alors, cette étude-là, donc, c'est l'Observatoire québécois des inégalités qui publie une étude sur le taux d'insécurité alimentaire dans la province qui a pratiquement doublé en 5 ans. Alors, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est des experts et expertes comme tels. On est passé de 11 % en 2019 à 20 % en 2023. Pour l'ensemble de la population, les augmentations touchent davantage. les formes les plus sévères d'insécurité alimentaire. Un locataire sur trois, donc 31%, est touché par l'insécurité alimentaire au Québec. Donc, ce que dit toujours l'Observatoire québécois des inégalités, on doit impérativement faire le lien entre la hausse de l'insécurité alimentaire et celle des coûts du logement. Quand le loyer augmente, soit on accepte la hausse, soit on s'en va dans la rue, dit Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire. La fameuse stratégie qui était de trouver un logement moins cher que celui qu'on occupe actuellement n'existe plus vraiment en 2025. Puis ça, évidemment, par l'expérience que j'ai, puis on pourra en parler abondamment avec des groupes logements, donc bien sûr l'Association locataire de Sherbrooke, parce qu'on disait, bon, je vais, puis là, je sors du texte en parlant de l'expérience que j'ai là-dessus quand même, là, puis on l'a vécu, puis on paraît que ça sera pas bien, bien beau pour 2026 non plus, là, mais 2025, dans deux ateliers, j'ai participé pour accueillir les locataires qui recevaient leur augmentation de loyer, bien, c'était assez épouvantable, là. Ils disent, ben, si t'es pas content, va-t'en, ben, je vais faire une augmentation, hein, bon, oui, puis ben, c'est parce que là, tu vas où? Déjà un logement qui est trop cher, mais moins cher que dans le restant de ce qu'il pourrait avoir, fait que donc, ça confirme bien ce que dit justement M. Boucher, économiste à l'Observatoire. Ça presse d'augmenter les revenus des personnes en situation de pauvreté et d'augmenter considérablement les alternatives aux logements trop chers. Ça prend un vrai chantier de logements sociaux, hein, sous forme, sous différentes formes, avec des loyers respectant la capacité de payer des locataires. Il faut doubler le nombre d'ici 15 ans. Ne pas le faire a un coût social énorme. Donc, évidemment, puis si on regarde justement les différentes choses, donc en 2020, entre 2020 et 2024, les composantes logement et alimentation, l'indice des prix de consommation, à l'IPC qu'on appelle, on te dit qu'on a une augmentation de 24% au Québec. Donc, si on regarde dans l'ensemble, là, ben, dans le logement, on parle de tout près de 23,9, pas loin de 24, ça, là. Hein, les aliments, 23,7. Les transports, 23,2. Bon, boissons, alcool, tabac et cannabis, 19,5. Les soins de santé, les soins personnels, 17,5. Mais si on regarde les deux principales, là, augmentations, fait que, évidemment, donc, ce sont les niveaux d'insécurité alimentaire modérés et sévères qui ont connu l'augmentation la plus marquée. Donc, on parle donc de 319 000 personnes ont souffert d'insécurité alimentaire sévère au Québec. Donc, ça aussi, là. Donc, c'est des chiffres, là. Et d'ailleurs, c'est sur différentes pages, là, comme tel, l'Observatoire, donc, québécois des inégalités. L'insécurité alimentaire atteint une personne sur trois chez les locataires. Donc, l'insécurité alimentaire est fortement associée au mode d'occupation du logement. En 2023, près de une personne sur trois, donc 31% qui étaient locataires de son logement, se trouvant en situation d'insécurité alimentaire contre 14,5% chez les propriétaires. Là, possiblement que c'est pas près des propriétaires plus de maisons, là, comme tel. Hein? C'est un constat préoccupant. Puis les résultats de maisons, là, unifamiliales ou quelque chose comme ça, là. Donc, ce constat préoccupant appuie les résultats d'une étude publiée récemment par l'Observatoire qui explore le lien entre la crise du logement et l'insécurité alimentaire qui révèle donc que les locataires ont évidemment beaucoup plus de chances d'être comme tel. Là. Donc, c'est vraiment alarmant comme tel. Puis hier, ben, je vais vous revenir avec le texte que j'ai ce matin. On s'est trouvé sur Facebook comme tel, dans des messages envoyés par des membres de l'Association locataire, mais on parlait hier, justement, de l'étude aussi chez les personnes aînées. Madame a dit, moi, le matin, je mange une toast, puis elle a dit, je chaude des repas. Bon, fait que ça aussi, les personnes seules comme telles, c'est sûr que, bon, puis il existe la papote roulante qui est une belle alternative, souligner le travail qu'ils font quand même là-dessus, là. Fait que donc, pour ça savoir, c'est bien, hein, n'est-ce pas? Et justement, ben, José Legault, mais il n'y a pas tous les Legault qui sont à droite, là, il y en a qui sont un petit peu plus à gauche. Et le titre dans le journal de Montréal disait ceci, parce qu'il y a des articles, des fois, il y a Laure Varidel, puis pas juste les gens plus à droite là, qui sont là. Et encore là, ça aussi, c'est assez important comme tel. Alors, ce qu'elle dit, justement, dans tout ça, ben comme le veut le vieil adage, la guerre contre la pauvreté est terminée, les pauvres ont perdu. Malheureusement, la formule se matérialise sous nos yeux. Devant la montée fulgurante de l'itinérance, du prix des loyers, de l'épicerie, et de ce qu'on appelle fort diplomatiquement l'insécurité alimentaire, cette même défaite s'étend jusqu'à la mythique classe moyenne. Cette classe moyenne étant celle que tous les gouvernements, de gauche, de centre ou de droite, jurent en cœur pendant que leur nez allonge, comme Pinocchio, qu'elle est au centre de leur politique publique. Or, selon une étude de l'Observatoire québécois des inégalités, l'insécurité alimentaire touche maintenant près de 20% des gens de la classe moyenne, c'est un cinquième. Pour les locataires, ça grimpe à 31% de la population québécoise totale. Elle frappe 1,7 million de personnes. Depuis 5 ans, l'augmentation est alarmante. C'est quoi l'insécurité alimentaire? Pour les gens seuls comme pour les familles, elle va d'une difficulté à se payer une alimentation suffisante et d'une qualité même minimale jusqu'à se priver carrément de manger. Sur une autre planète, bref, on parle de malnutrition, de dénutrition et au stade ultime de faim. Donc, d'endettement, d'isolement social exacerbé, de détresse et de maladie au Québec en 2025. Pendant ce temps, sur une autre planète, la grande patronne de Santé Québec vient de vendre son condo pour plus de 5 millions de dollars. Hein? Pauvre madame, pas drôle ça? La fréquentation des banques alimentaires, elle monte en flèche, y compris par des personnes qui travaillent à temps plein, mais qui n'arrivent plus à payer leur loyer et leur épicerie, dont les coûts ne cessent d'exploser. Donc, ça rejoint beaucoup aussi le texte là, de l'Observatoire des inégalités. Or, le jet et la nourriture sont les deux principaux postes de dépenses dans tout budget personnel ou familial. Dit autrement, les écarts de richesse se creusent à nouveau. Les mieux nantis le sont de plus en plus et tous les autres de moins en moins. Donc, le filet social ne suffit plus. Dans un tel contexte, les fameux filets sociaux québécois ne suffisent plus à combattre le retour en force des inégalités économiques. La raison? Depuis au moins 5 ans, les deux paliers de gouvernement ne sont pas intervenus suffisamment dans l'économie pour mieux protéger les capacités de nombreux citoyens à se loger décemment, à se nourrir normalement et à se soigner lorsqu'ils en ont besoin. Pour le logement, par exemple, à part répéter faussement que la seule solution à la crise du logement est de construire plus, le gouvernement Legault s'est refusé à instaurer un vrai contrôle des hausses de loyers, à créer un registre des baux et à accélérer la création de logements hors marché. Dans notre société vieillissante, quand on ajoute au portrait le fait inquiétant que la majorité des Québécois n'ont pas ou n'auront plus de fonds de pension, si nos gouvernements ne sortent pas de leur torpeur, si nos gouvernements, donc, on est en train de se magasiner pour très bientôt une sérieuse crise sociale. Alors, ça rejoint bien. Petit peu de musique, on va revenir à quelques activités qui s'en viennent et aussi nos invités qui se préparent aussi pour la prochaine demi-heure. Une chanson qui était suggérée justement par nos amis justement du Cheap. On va essayer de se motiver.
Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
c'est une pièce qui est très motivante aussi, effectivement, qui nous amène dans cette première demi-heure comme telle de l'émission Logement et droit. D'ailleurs, on rappelle qu'elle est toujours disponible dès le lendemain sur le site Internet de CFLX. On appelle ça en balado comme telle. Quelques petites annonces qui s'en viennent, évidemment, tout au cours de la semaine. Et ça a commencé, d'ailleurs, le 25 novembre dernier, les 12 jours contre la violence faite aux femmes. Et justement, pour compléter ici en Estrie, il y a plusieurs activités partout au Québec. Et là, c'est ce samedi, donc le 6, qui évidemment rappelle un triste moment de l'histoire du Québec, 1989, quand mes invités tout à l'heure, ils n'étaient pas au monde à ce moment. OK. Ben, alors, c'est que oui, mais sûrement pas vieille. 89, donc, triste anniversaire, bien sûr, de la tuerie de la Polytechnique. Et chaque année, partout au Québec, on rappelle, il y a Montréal, ici à Sherbrooke, ça se tient ce samedi à 13h. Ça se tient devant, le départ va se faire devant le palais de justice au 375 Queen West. Donc, parce que, évidemment, malheureusement, ces féminicides continuent depuis toujours. Et parce que chaque femme assassinée a vécu, aimée, a laissé sa trace. Ce souvenir, c'est faire de leur mémoire une force collective. Il y a un cri qui traverse le temps pour que jamais plus leurs histoires ne se répètent. Donc, 16 décembre, on note ça comme tel. Alors, c'est ça, pour compléter, c'est 12 jours comme tel. Et évidemment, différents comités qui se mettent en branle aussi, entre autres le comité racisme et discrimination de Solidarité populaire Estrie, dont je fais partie comme tel pour la deuxième année. Puis je pense qu'actuellement, avec ce qui se passe comme tel, ben on a juste à regarder en immigration, la disparition du programme d'expérience québécoise. Également aussi, évidemment, la chasse aux sorcières, aux femmes voilées, là, qui espèce d'islamophobie du gouvernement, mais il n'y a pas ça l'identité québécoise. Ah, d'ailleurs, j'ai mis l'autre soir, justement, quand les deux chefs syndicales de la CSN de la FTQ ont ramassé le ministre de l'immigration. Là, il va avoir hâte de rentrer chez eux. Mais je pense que il faut qu'à un moment donné qu'il se fasse brasser. Donc, ce comité-là a beaucoup de choses comme telles à venir. Et justement, la semaine prochaine, on parle évidemment de l'association de locataires. Puis il y a plusieurs activités. C'est l'Église Sainte-Famille, qui est devenue plus populaire même que l'Église Notre-Dame de Paris, comme telle. Et donc, la semaine prochaine, à 11h, je vais être en onde, mais dans la deuxième demi-heure, sûrement qu'on recevra quelqu'un de l'association de la semaine prochaine. J'ai aussi, dans la première demi-heure, le Cheap, qui vient faire sa chronique. Donc, évidemment, c'est toujours cette lutte pour transformer l'Église Sainte-Famille en logement social. Il y a un nouveau conseil municipal. Le dernier avait au moins écarté la possibilité que ce soit vendu à du logement privé, mais il faut que ça bouge à quelque part. Et d'ailleurs, justement, mardi dernier, c'était le premier conseil municipal où les tâches ont été remises aux différents élus. Et Isabelle Pouliot de l'association a fait un... D'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook Groupe Association Locataire, il y a toute la session, le conseil municipal au complet. Là, évidemment, vous pouvez avancer pour... Il y a plein de choses, mais il y a une partie où, justement, l'intervention d'Isabelle qui rappelle les revendications, donc le financement de l'association des locataires qui existe depuis 1979. Donc, et ce qu'on redemande, c'est d'avoir 50 000 annuellement, et ce, de façon à chaque année, là, que ça soit toujours comme tel. L'Église Sainte-Famille, bien sûr, en logement social, que ce soit aux formes d'HLM, Coop, OSBL, et d'annuler les décisions devant l'Église en décembre 2025. C'est bien, donc, puis évidemment, la cible de 20 % de logements sociaux, puis qu'il y a aussi, comme tel, là, un réel dialogue entre aussi les groupes communautaires également aussi la ville de Sherbrooke. Fait qu'on va voir, évidemment, il y a eu des nominations au niveau de l'office municipal, Mme Laure Letarte-Lavoie, qui est devenue la présidente de l'office municipal de Sherbrooke. C'est aussi Paul Jean, qui est le président du parallèle. Donc, évidemment, il y a le changement. On va voir comment ils vont fonctionner comme tel, l'itinérance aussi des nouvelles personnes. Donc, il y a tout un nouveau conseil municipal comme tel. Alors, ça va être important. Donc, ça, je vous donne, évidemment, ce rendez-vous qui se fait jeudi, le jeudi le 11 à 11h, devant les 17 familles. Et entre autres, évidemment, on parle de la crise de l'itinérance comme telle. Et là, ça va être important aussi de pouvoir justement continuer cette lutte-là. Parce que le 16, donc, c'est-à-dire là, il y avait le conseil municipal le 2, le 16, c'est le budget. Et là, évidemment, c'est toujours ce soir-là qu'il y a des gens qui pleurent puis des gens qui rient. On va voir qui va rire, qui va pleurer, mais ce qui va être important, c'est entre autres de voir si quelles seront les décisions prises, entre autres aussi pour le logement social, pour la crise d'itinérance comme telle. Et également, évidemment, quand si vous avez écouté là, le conseil municipal, c'est ça, quand Isabelle a fait ses demandes, bon, il y a toujours la réponse. On est sensible à vos demandes. Bon, ben c'est ça. Un peu de violon puis un peu de guitare, mais c'est parce que c'est beau qu'après, il faut s'apprendre aussi du cash. Oui, c'est beau, les larmes, mais il faut aussi y aller. Alors donc, et une autre activité aussi qui s'en vient prochainement, donc c'est ce mardi, le 9. On a eu, dernièrement aussi, l'émission Rosalie, qui est venu parler justement de cette journée qui se passe de mobilisation. Le discours doit changer, parlons de pauvreté. Puis évidemment, là, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, là, de l'insécurité alimentaire là, via le logement, tout ça, ben je pense que... Donc ça se passe, c'est une journée de mobilisation, campagne préélectorale, parce qu'il y a des élections en 2026, fait que ça va donner quelque chose. Fait que déjà, on se prépare comme tel, et ça se passe justement du côté de Magog. Et donc, je ne sais pas s'il y a encore de possibilité que les gens puissent s'inscrire. C'est au Théâtre Magog, sur la rue principale Ouest. Ça se passe de 9h15 à 16h30. Puis bon, il y a toujours possibilité, là, pas manquer votre coup. Il y a soit d'écrire à la TACA, là, T-A-C-A-E, A commercial, TACA, T-A-C-A-E, estrie.org, ou le 829-3822 dans le 819, cette journée-là, donc, évidemment. Puis on se rappelle qu'en 2002, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il manque des petits bouts encore, hein? Alors, pourtant, plus de 20 ans plus tard, aucun gouvernement n'a réellement pris cette urgence au sérieux. Et là encore, tout ça se concorde ce matin avec les données que vous ai apportées, hein? Une personne sur 10 au Québec n'arrive pas à combler ses besoins de base. Donc, le collectif Point Québec sans pauvreté, évidemment, travaille ça, puis il s'en estrie. Alors, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Un petit peu de musique pour nous emmener à la pause. Et ensuite de ça, justement, Alexandre Poulin, qui est un auteur, compositeur de Sherbrooke, qui fait beaucoup de choses au niveau social aussi. Alors, il va nous emmener à voir nos deux invités d'aujourd'hui. Annabelle et Emmanuel, on est dans la même sonorité, et en même temps, c'est des femmes très engagées et aussi qui ont une belle expérience de vie.
Je suis fils d'hiver, et toi, fille du Saint-Laurent, nous rêvons en bandoulière, on n'a pas peur du grand vent, mais les marchands d'avenir voudraient nous faire croire qu'on n'a rien à dire quand s'écrit notre histoire. Moi, je ne veux pas m'éteindre et rentrer dans le rang où les vies sont les mêmes et les rêves sur un pain. Comme des enfants de cavale qui refusent de dormir quand s'éteint leur étoile et qu'il faudrait vieillir. Allons, partons ensemble vers des contrées sauvages où les gens nous ressemblent et n'ont qu'un seul visage. Au début, nous serons seuls, puis viendront des milliers à croire que la boussole est salement déréglée. Et je ne peux pas te dire de quoi sera fait demain, mais à craindre le pire, je sais qu'on ne fait jamais rien. J'ai pas peur de la route, des surprises en chemin. J'ai même croisé le doute dans les lignes de ta main. Mais j'ai jamais voulu d'une vie en package. J'aime mieux sourire à l'inconnu. Si l'inconnu a ton visage. Je sais le jour qui passe et qu'il ne revient guère, que le temps nous enlace pour nous rendre à la terre. Et puisque l'on devient la poussière dans le temps, demain nous ne serons rien, mais aujourd'hui on est vivant. Que ton cœur est un poème, qu'il rime sous mes doigts, que tes cheveux s'en mêlent en dansant sur ma voix. Laisse-moi te redire, c'est pas nous les méchants, on est des milliers à le dire et à répondre présent.
Il est midi
29 minutes.
Consigne Action récupère des millions de contenants de boissons consignés chaque jour grâce à un vaste réseau de lieux de retour qui se transforme partout au Québec. Derrière ce réseau, il y a des gens passionnés, des équipes fières de réduire l'empreinte environnementale de nos contenants de boissons. Vous êtes motivés, responsables et souhaitez faire votre part? Joignez-vous à notre équipe dès maintenant. La consigne, c'est l'avenir. Visitez consigneaction.ca pour en savoir plus.
En ces temps de réjouissance, de festivités et de bons moments passés avec nos proches, ayons une pensée et encore mieux, posons un geste pour aider les plus démunis de notre société, de notre municipalité ou de notre quartier. Grâce à un généreux don, tous les services de repas seront gratuits à La Chaudronnée jusqu'au 2 janvier. Nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de La Chaudronnée de l'Estrie, paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. One love.
Chers auditeurs, chères auditrices, je m'appelle Yves Lenoir et c'est avec plaisir que je retrouve CFLX pour animer l'émission La chanson francophone hors des sentiers battus. Vous pourrez écouter des auteurs, compositeurs, interprètes peu connus ou inconnus qui chantent le plus souvent en dehors des marchés commerciaux. Au plaisir de vous retrouver le lundi à 20h
dans des valises en carton.
CFLX 95.5 FM, une radio pas pire branchée.
Et oui, deuxième demi-heure de l'émission de Logement Droit en ce 4 décembre 2025. Oui, déjà le dernier mois de l'année. Et pour cette deuxième demi-heure, rajeunir la moyenne d'âge du studio comme tel, avec deux personnes passionnées et puis aussi engagées. Alors, plaisir d'avoir Annabelle Bertillon. Bonjour, Annabelle.
Bonjour, Alain. Merci de ton invitation.
Ça fait plaisir. Et Emmanuel Forge.
Oui, c'est ça. Bonjour, Alain.
C'est bonjour. Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui. Toi, c'est ta première expérience radio, comme dit.
Oui, la dernière fois, j'avais 5 ans, j'étais en maternelle.
Ah, OK. Bon. Mais c'est bon pour moi que tu avais reçu, là.
Non.
OK. Annabelle, t'es plus habituée un petit peu aux médias, toi, là, comme tel.
Oui, mais c'est quand même pas mon travail non plus, là. Il faut pas...
Et justement, pendant le travail, entre autres, une des premières, cette année, un travail, peut-être dire aussi ce que tu fais dans la vie, comme tel.
Oui, ben moi, je suis prof à l'École de travail social, en fait, à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'ai la chance de travailler avec Emmanuel. Emmanuel, si tu veux te présenter.
Oui, moi, je suis étudiante à la propédeutique. C'est l'année juste avant la maîtrise en travail social depuis septembre.
Et justement, avec l'association de locataires, que justement, là, cette année, entre autres, il y a un projet intéressant qui se fait comme tel.
Oui, bien, en fait, on a la chance de collaborer avec cet organisme-là. Peut-être pour vous dire un peu d'où ça vient, ce projet-là. En fait, moi, j'ai été étudiante en travail social, j'ai fait des stages non rémunérés, j'ai participé aussi à la mobilisation pour la revendication de la rémunération des stages et plus largement des études. J'ai aussi été travailleuse dans le milieu communautaire, puis maintenant, je me retrouve à enseigner l'intervention communautaire. Puis, ben, ça fait quelques années quand même qu'on entend là, les revendications pour rehausser le financement dans le milieu communautaire. Les stagiaires n'ont toujours pas obtenu un salaire pour leur travail. Donc, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était de comprendre un peu comment les dynamiques de travail et d'engagement prenaient forme dans un groupe, concrètement. On sait que les milieux communautaires, il y a différentes traditions. Il y a des traditions plus militantes, plus politiques, comme à l'Association des locataires, mais il y a aussi des traditions qui sont plus religieuses, chrétiennes, basées sur l'entraide, le bénévolat. Fait que ma question était un peu de savoir comment tout ça se prend forme dans un organisme, quelle place on laisse aussi aux celles qui sont pas rémunérées dans l'organisme, parce que les milieux communautaires, c'est des milieux qui sont majoritairement féminins, autant celles qui travaillent de manière rémunérée que les stagiaires qui viennent dans les organismes communautaires et que les bénévoles. Donc, c'est un milieu où il y a beaucoup de travail de care, de prendre soin. Donc, qui prend les décisions, qui participe à la mise en place des interventions, quelles responsabilités chacune de ces personnes ont. Et donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on a approché l'assaut des locataires. Mais là, on n'est pas supposé trop de dire que c'est l'assaut des locataires. Fait que ça va rester entre nous, à CFLX.
Oui, on mettra ça dans d'autres médias.
Mais c'est ça nous permet, en fait, d'explorer comment, c'est quoi la place des militants militantes à l'assaut des locs, plus particulièrement, puis comment se répartit le pouvoir là, dans l'organisme.
Et toi, Emmanuel, ben, tu observes toutes ces choses-là?
Oui, moi, en fait, je participe à la collecte de données. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est une ethnographie. C'est un peu pour... c'est de s'immiscer un peu dans un organisme pour comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur. Donc, moi, je vais observer... J'ai observé, en fait, pendant des conseils d'administration, on est allé à l'AGA, on fait des entrevues aussi avec les individus qui participent à l'assaut. Puis, mais j'ai été justement, comme tu parlais tantôt, au conseil municipal le mardi, j'étais là pour observer un peu comment ça se passait entre les personnes qui sont membres de l'assaut. Donc, c'est ça, on essaie de comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur. Puis moi, je participe à ça.
C'était ton premier conseil municipal?
C'était mon premier conseil municipal.
Et entre nous, comment t'as vécu ça?
Mais j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bien, j'ai pas aimé les réponses qu'ils nous ont données. Ça, je trouvais que c'était un peu du pelletage de nuages. Mais
t'es habitué, tu vois, c'est pas mal. Mais si t'as payé aux nuages qu'ils donnent, ça serait payant.
Oui, mais j'ai aimé la façon dont Isabelle s'est exprimée. J'ai aimé la solidarité aussi de l'assaut. J'ai trouvé ça vraiment intéressant puis important aussi.
Parce que ça, de voir l'expérience du conseil municipal, justement. Ton expérience, Annabelle, évidemment, t'es arrivée dans ce domaine-là toute jeune, que tu t'intéressais à tout ce qui est social?
Non, pas du tout. En fait, moi, j'étais pas prédestinée à des études universitaires. Là, j'étais pas certaine, en fait, du tout d'aller à l'université quand j'étais jeune. Mais je dirais que une des expériences marquantes, c'est justement quand j'ai travaillé à l'accueil Poirier ici, puis on a eu des difficultés au niveau du financement.
Ah, voyons donc pas. Puis, il y avait juste vous autres.
Puis c'est sûr que ça l'a influencé après. Bon, c'était pendant que j'étais en train de payer mes études que je travaillais comme intervenante à l'accueil. Et notamment en vue de préparer aussi les sessions de stage non rémunérées qui nous demandaient aussi dans le temps. Donc, en voyant comment le financement influençait nos interventions, puis influençait les demandes qu'on devait obéir, ou ça l'a vraiment ça m'a donné envie d'approfondir cette question-là. Mais après, moi, j'ai continué à la maîtrise parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était les mobilisations étudiantes à l'UQAM. Là, c'est un peu ça qui a été le moteur de continuer aux études. Fait que non, je suis pas née du tout là dans un milieu militant ou
mais attends, tu t'es repris là, pas mal là. Tu t'es repris. Emmanuel, qu'est-ce qui t'a amené à t'en aller dans ce domaine-là?
J'ai toujours été... ça a toujours été sûr que j'allais être dans un domaine de relations d'aide. Là. Moi, j'ai un bac en enseignement.
OK.
Puis j'ai fait plusieurs stages non rémunérés en enseignement. Puis pendant mon bac, j'ai fait aussi de l'implication étudiante. Fait que j'ai participé un peu au mouvement étudiant, mais plus dans le contexte associatif où est-ce qu'on faisait de la défense de droits des personnes étudiantes. Puis c'est ça qui m'a un peu ouvert les yeux sur un peu la défense de droits, un peu plus le mouvement étudiant, la condition étudiante, la précarité étudiante, tout ça. Donc, je me suis intéressée au travail social, puis c'est pour ça que là, je suis en travail social. J'essaie de rentrer à la maîtrise et c'est ça la recherche que j'en fais depuis quelques années. Donc, j'en ai fait en éducation, en enseignement. Puis j'ai approché Annabelle pour travailler avec elle parce que ça me tentait. On m'avait dit, Annabelle, tu vas aimer ses projets. Je me suis dit, parfait.
Bon, ben, tu
là,
vois.
Je suis là.
Ben, effectivement, parce que moi, ça fait quelques années que je te connais. Et entre autres, je me souviens justement, face au stage non rémunéré, il y avait un livre qui avait été lancé où, avec on avait nos masques à ce moment-là. Là.
Oui, j'étais venue en parler à ton émission d'ailleurs, l'anthologie sur la rémunération, la grève des stages.
Et puis ça n'a pas bien bougé là-dessus, hein?
Non, ben en fait, depuis ce temps-là, on a obtenu des bourses qui ont par la suite été retirées. Donc oui. La situation est la même. Là. Sinon, on peut dire c'est soit la même ou ça s'est empiré, dans le sens que ben le logement coûte toujours de plus en plus cher, le panier d'épicerie coûte toujours de plus en plus cher, donc les personnes étudiantes sont vraiment confrontées à une pression économique là dans un contexte où ils sont pas payés, mais ils travaillent à temps plein là.
C'est ça, ouais. Puis souvent les études fait que ils sont obligés de travailler en même temps, puis ben je sais pas, tu le vois sûrement, toi, des gens autour de toi, là, puis tu le vis peut-être toi aussi, là.
Oui, c'est ça. On a besoin de travailler. Puis là, justement, nous, cet hiver, ma cohorte et moi, on est en stage pendant 13 semaines à temps plein. On n'est pas rémunérés. Puis moi, dans ma cohorte, là, il y a un tiers qui sont mamans, qui ont 2-3 enfants à la maison.
Okay.
Puis les autres, on n'a pas d'enfants, mais on a beaucoup qui ont des chats, puis il y en a beaucoup qui considèrent ça comme
oui.
Une autre bouche à nourrir, là, tu sais. Puis, on est quand même stressés, c'est ça, on parle beaucoup de la précarité étudiante ces temps-ci, on essaie de comprendre comment on va faire cet hiver, puis on pense aussi à... Il y en a que c'est un an de stage. Je pense aux gens à la maîtrise en psychoéducation, par exemple. C'est un an à 4 jours semaine, 3 jours semaine peut-être, en stage. Donc, c'est ça, c'est des longs stages non rémunérés. Il faut qu'en plus de ça, tu travailles. Donc, c'est comme 2 emplois, les études, dont un emploi qui est non rémunéré. Donc, c'est ça qui est difficile.
Peut-être juste pour préciser, Manuel, vous, c'est 13 semaines
ouais.
À temps plein,
ouais.
Plus des cours avec des travaux à remettre.
Exact. C'était comme ça en enseignement aussi, c'était ouais. 12 semaines à temps plein, pas rémunéré.
C'est une ouais. réalité, donc, actuellement, c'est ça, on parle de précarité étudiante, et puis il y a plein de choses, puis il n'y a pas grand réponse des gouvernements là-dessus. Là.
Non, puis il ne faut pas perdre de vue non plus que depuis les différentes réformes, les coupes budgétaires, tu sais, vous en avez parlé beaucoup de l'immobilisation, t'en parles souvent dans ton émission, mais si on coupe en santé, en éducation, si le financement des milieux communautaires n'est pas indexé, ben il veut pas, les besoins augmentent. Fait qu'il y a des gens non rémunérés qui prennent le lest, en fait. Puis c'est parfois des bénévoles, c'est parfois des stagiaires, c'est parfois des travailleuses aussi qui font du temps non rémunéré, du temps de travail non rémunéré. Fait qu'il y a comme... il y a un lien direct, en fait, entre les coupures dans le réseau public, la santé des services sociaux, le milieu communautaire, puis l'augmentation des heures non rémunérées, que ce soit des bénévoles, des stagiaires ou même des intervenantes.
Puis nous, on se le fait dire, là, quand on a nos entrevues de stage, c'est pas la faute des travailleurs sociaux, là, mais on se le fait dire, est-ce que tu es prête à prendre une charge de cas? Parce que nous, on a besoin que quelqu'un prenne une charge de cas. Donc, on se fait aussi dire, on a besoin de quelqu'un qui sera pas rémunéré parce qu'on n'a pas l'argent pour la payer, mais qui travaille autant que nous parce que on a trop de personnes. Fait qu'on se le fait dire directement, là, tu sais.
Fait que vous n'avez pas le même problème que la directrice de Santé Québec qui a vendu son condo pour 5 millions. Là, ça, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux.
Non, pas exactement. Non,
mais tu sais, justement, ces espaces comme tels, là, de très riches, la précarité, ça, des fois, ça vient... Ça motive d'un côté l'engagement social, mais d'un côté, c'est révoltant.
Oui, absolument. Puis je pense qu'une des choses qui est intéressante avec la lutte pour la rémunération des stages, mais des études aussi plus largement, c'est que c'est des domaines qui sont majoritairement, traditionnellement féminins. Là. C'est beaucoup des personnes, des femmes qui sont en enseignement, en éducation, en soins infirmiers. Puis elles vont être retrouvées aux contradictions dans leur travail, dans leur vie de couple, dans leur, tu sais, dans leur vie domestique. Le travail gratuit, en fait, ça s'arrête pas à la condition de stage. C'est une condition qui est souvent assignée socialement aux femmes. Donc, de pouvoir mobiliser sur cet argumentaire-là, ben ça permet aussi de voir différemment comme notre vie de manière générale, comment on pourrait, à partir d'une lecture féministe, revoir les rapports de pouvoir dans nos relations hétéro, dans notre relation avec nos profs, dans notre relation avec notre patron. C'est pas anodin, en fait, qu'il y a eu une grève dans la fonction publique l'année passée. On est un peu dans les mêmes discours, les mêmes argumentaires où c'est la vocation, c'est la nature, c'est ce qu'on socialement on attribue aux femmes qui fait en sorte que c'est aussi difficile de faire la grève parce qu'on est constamment en train de prendre soin des autres. Mais fait que c'est pas inintéressant aussi pour cette question-là parce que ça nous permet de faire des liens sur le reste de notre vie puis des solidarités aussi entre travailleurs, travailleuses non payés.
On parle de grève sociale, évidemment, au printemps aussi, là, fait que... Et puis, on a vu le rassemblement de quand même 50 000 personnes, c'était quand même... Bon, il y a quelques années, on a connu ça à 200 000, là, mais il y a une douzaine, mais c'est vraiment inquiétant quand même, là.
Oui, puis pour ajouter aussi à ce qu'Annabelle dit, on est confronté aussi dans nos valeurs, parce que quand on va en relation d'aide ou quand on va en enseignement, justement, en sciences infirmières, bien, on fait ça souvent pour aider les gens parce qu'on... Puis là, c'est comme... c'est difficile de pas vouloir aider les gens parce qu'on n'est pas rémunéré, puis de... C'est difficile de jouer avec ces différentes valeurs-là, là, de refuser de travailler gratuitement ou de refuser de faire des heures supplémentaires, sachant très bien c'est qui les personnes qui vont écoper. C'est pas nos patrons qui vont écoper de ça, c'est les individus qui ont besoin. Donc ouais. Là, c'est dur pour nous aussi de mettre notre pied à terre, parce qu'on le sait, c'est quoi l'impact que ça a sur les gens. T'sais.
Effectivement. Justement, il y a quelques jours, on s'est retrouvés là, avec... en lettres de feu et de sang, c'est un titre qui est déjà... c'était justement ça, une initiative que de ton... Parce que je voyais ton nom, justement, dans l'introduction, comme tel. C'est beaucoup à la suite aussi du premier volume, d'un volume qui avait paru aussi sur les luttes aussi pour que la rémunération des stagiaires.
Oui, bien, le livre en lettres de feu et de sang, en fait, c'est une traduction d'une série de textes qui ont été écrits par George Kafensis, qui est un prof en philosophie aujourd'hui retraité de l'Université du Maine. Mais d'abord, en fait, George, c'est un camarade militant qui s'est mobilisé sur différentes initiatives et notamment qui a fait partie d'un collectif qui s'appelle Zero Work, donc zéro travail, qui visait justement à lutter là, contre l'augmentation du temps de travail, à refuser aussi certaines formes de travail. Et donc, ce livre-là a été traduit en français par un ami à moi, Étienne Simard, qui était aussi un des militants qui a mis sur pied la campagne sur la rémunération des stages et des études. Étienne, donc, je pense que ça a été son projet de pandémie, là, il s'est mis à traduire ce livre-là, qui est un livre qui est peut-être... qui est intéressant, en fait, pour les militants militantes, pour pouvoir approfondir nos argumentaires sur le travail, sur le temps de travail. Puis, la thèse principale des différents textes de George, c'est justement que, bon, au moment où il écrit ces textes-là, on est dans les années 70-80, il y a le mouvement contre le nucléaire, il y a le mouvement contre la guerre au Vietnam, le Black Power, il y a le mouvement étudiant. George, d'ailleurs, va faire partie d'un collectif qui s'appelle Wages for Students, qui a écrit un pamphlet là, pour la rémunération des études. Donc, il voit toutes ces luttes-là et il y a un discours, en fait, qui dit essentiellement que, ben avec l'arrivée des machines, des nouvelles technologies, ben on va de moins en moins travailler. Puis on l'entend encore aujourd'hui, ouais. ce discours-là, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, ouais. Comment ça va donc nous libérer du temps de travail. Sauf que l'histoire va avoir donné raison à George parce que, dans le fond, le fait que il y ait de plus en plus de machines dans nos vies puis de plus en plus de technologies, ben ça n'a pas diminué notre temps de travail. Au contraire, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont deux emplois, deux jobs, qui travaillent aussi pour un salaire qui leur permet pas de vivre.
Pour arriver, pour essayer de manger ou essayer de se loger, puis encore.
Exactement. Donc, George va vraiment analyser la mécanisation du travail, l'apparition des machines dans le travail. Puis en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas les machines qui font le travail, c'est les humains derrière qui activent les machines, qui font les machines. Et toute cette apparition des machines dans le travail, c'est aussi dépendant d'une forme de délocalisation, hein, la construction des machines dans les pays du Sud, les guerres dans les pays du Sud, les génocides dans les pays du Sud. Donc, il y a toute une industrie de l'armement, de la mort, qui va être liée à le développement de ces nouvelles technologies-là, sans compter aussi tous les effets sur la crise écologique. Donc, le livre essaie un peu de donner des arguments aux militants militantes qui s'intéressent à aux transformations du travail, puis il fait la démonstration que, ben l'apparition des machines, ça nous a pas diminué notre temps de travail. Au contraire, ça nous a... le temps de travail a explosé. Fait que c'est une des idées importantes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore se servir, là, quand on parle de l'apparition de l'intelligence artificielle et tout... c'est pas vrai que, par exemple, les professeurs d'université travaillent moins que v'là 20 ans ou 30 ans. Non. Au contraire, maintenant...
Peut-être plus, même.
Ben oui, on est enchaîné avec notre téléphone sans arrêt, avec les notifications, etc. Là, donc.
Mais quand t'as des bonnes élèves comme Emmanuel, ça va bien?
Oui, ça va bien, mais je travaille quand même.
Mais c'est peut-être...
Oui, ça rend le travail plus agréable, mais c'est du travail.
Et il y avait beaucoup de personnes quand même à ce lancement-là. Parce qu'on lance ça sur Facebook, une invitation, il trouve des gens qui disent intéressés, puis bon, il y avait plus qu'intéressés, ils participaient, puis il y a eu de beaux échanges aussi. Là.
Oui, ben en fait, on a eu la chance d'avoir la participation du CHEAP, qui avait aussi des militants
qui sont des collaboratrices ici à l'émission.
Exact, qui avait lu le livre, qui avait préparé aussi des questions, notamment sur la question des enquêtes, sur la réflexion derrière le livre, donc ça nous a permis vraiment d'avoir des bons échanges. J'ai pas précisé, là, le livre a été publié aux éditions de la rue d'Orion à Montréal, mais c'est une collaboration aussi avec une maison d'édition suisse, Entremonde, qui sont aussi des militants militantes. Donc, on espère que les idées de George vont pouvoir circuler. Ce qui était d'ailleurs un des objectifs d'Étienne. Étienne, aujourd'hui, s'implique dans un collectif qui s'appelle La Grande Démission, qui sont en fait des travailleurs de la fonction publique qui s'organisent sur leur milieu de travail. C'est des gens qui sont dans différents secteurs, là, fonction publique, entretien dans un cégep, enseignante. Donc, c'est pas juste un corps de travail en particulier, c'est des gens qui sont employés par l'État, qui essaient d'avoir une pratique d'organisation autonome sur leur lieu de travail, puis à la fois sensibiliser à la question des conditions de travail, mais aussi avec une lecture plus large, c'est-à-dire désinvestir les fonds de retraite des industries de l'armement, du génocide en Palestine, etc. Donc, ils produisent une revue à tous les 6 mois, à peu près. L'idée, c'est de nourrir un peu les analyses des groupes militants là, à partir des idées de George.
Et justement, la politique, on a eu une année assez... assez rempli. Il y a peut-être chacun un événement. Et, Emmanuel, peut-être ce qui retient ton attention d'un événement 2025.
Ben, parler du campement qui s'est déroulé sur le campus de l'Université de Sherbrooke, qui a commencé là, à l'été 2024, en fait, qui est 2024, qui a commencé en mai, qui a terminé en juillet. Il s'était organisé au pic là, de leur nombre de personnes qui étaient sur le... Je sais pas comment dire ça en français, là.
Ouais.
À l'apogée du nombre de personnes sur le campement, il y était quasiment une, tu sais, entre 30, 40, 50 personnes. Ça dépend des données statistiques, là. Donc, il y était plusieurs personnes travailleuses, des personnes étudiantes, citoyens, citoyennes, donc, qui s'organisaient pour demander à l'Université de Sherbrooke de désinvestir principalement des compagnies d'armement, mais aussi d'avoir des pratiques plus transparentes au niveau, justement, des investissements et tout ça. Donc, je ne sais pas si tu veux poursuivre par rapport à ça.
Ben oui, ben en fait, c'est ça. On a triché parce qu'à la fois, on a pris un événement qui a commencé en 2024, puis on a décidé de le faire ensemble. Ben,
normal qu'il y a des répercussions encore aujourd'hui, non?
Oui, oui, c'est ça. Puis une des choses qu'on voulait vous parler, c'est que la semaine passée, à la fin du mois de novembre, en fait, le Comité de solidarité pour les droits humains de la Palestine et le Front d'action collective de l'Université de Sherbrooke, donc deux groupes étudiants, ont fait paraître un rapport qui s'appelle « Analyse des investissements et partenariats de recherche », qui ont vraiment essayé de montrer, en fait, qui ont démontré les collaborations de l'Université de Sherbrooke avec 13 entreprises qui participent à l'armement et la militarisation. Ils ont distingué trois volets, là, en fait, le volet de technologie et les surveillances, en fait. Il y a aussi les entreprises qui font de la démolition dans les espaces occupés et la collaboration au niveau militaire, armement, aéro... Les questions aéronautiques, etc. Donc, 13 entreprises qui ont des implications là, dans le complexe militaro-industriel. Et donc, même si le campement il n'existe plus maintenant, ben les étudiants sont toujours mobilisés, puis ils ont un courage politique incroyable, en fait, de dénoncer l'Université de Sherbrooke dans sa complicité avec des crimes en Palestine. Donc, on voulait souligner, là, si ça vous intéresse, c'est disponible gratuitement en ligne, là, c'est un 5-6 pages qui vaut la peine et qui vise à remettre la pression, en fait, sur l'Université de Sherbrooke, là, qui se lave un peu les mains de sa responsabilité.
Et samedi dernier, justement, il y avait une conférence au CSI, justement, la Palestine, ça nous concerne. Puis il y avait quelqu'un, justement, tu parles de l'Université de Sherbrooke, qui donnait la majorité d'universités à part du CAM, là, beaucoup d'autres universités qui contribuent, justement, puis il y a... Là, je vais en distribuer à vos connaissances, là, la caisse de dépôt, qui est aussi, là, réinvestit l'argent des retraités, des Québécois et des Québécoises dans le génocide et les crimes. Donc, on parle de 27,4 milliards dans 76 entreprises complices. Fait que c'est bon parce que là, l'université semble dire, ah, ben, tu sais, c'est, bon, nous autres, on n'est pas si pire que ça, mais, tu sais, c'est épouvantable, là. Moi, depuis un an, là, je participe aux activités, justement, de Gaza, Sherbrooke, Gaza, tout ça, puis, tu sais, c'est un peu révoltant, hein. Je pense aussi, Emmanuel, ça doit aussi te venir te toucher aussi.
Ben oui, puis l'autre jour, il y avait une marche silencieuse, justement, pas en reconnaissance, mais pour avoir une pensée, là, pour les personnes qui
le
sont...
Le 7 octobre, je pense.
Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment touchant, là. Je suis allée avec des amis, puis on... Ouais, c'était vraiment... c'était troublant, c'était touchant. Puis la marche silencieuse, c'est la première fois que je participe à ça, mais ça avait une portée des fois même plus grande que quand on crie des slogans dans la rue. Oui,
effectivement.
Oui.
Effectivement, effectivement, c'est ça l'autre jour aussi. On s'est croisés aussi, là, un autre rassemblement aussi, sur comme tel. Actuellement, je pense qu'il y a une mobilisation qui se fait, puis je pense que ça prend, là, de plus en plus sa place.
Oui, puis je pense qu'il faut mettre de la pression sur l'Université de Sherbrooke, il faut mettre de la pression sur nos syndicats aussi pour désinvestir, en fait, nos fonds de retraite. Il faut mettre de la pression, tu sais, c'est pas seulement les employeurs qui ont des investissements financiers, là. Il y a plusieurs syndicats ici en Estrie aussi qui n'ont pas le contrôle, en fait, sur leur où vont leurs investissements financiers. Fait que je pense qu'il faut, il faut assumer notre responsabilité puis sortir d'un peu un discours de greenwashing où, tu sais, on a tous et toutes une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans les pays du Sud parce qu'après tout, ben on bénéficie de cette industrie-là collectivement.
Et ça passe vite. Puis depuis l'âge de 5 ans, c'est pas pire. Ça lui a bien tiré.
Oui, ça va.
Et d'ailleurs, c'est ça. Fait que y a plusieurs choses qu'on quand on va sur les différentes pages, peut-être rappeler justement ce que tu m'as donné tout à l'heure comme référence pour l'université, là, comme telle.
Oui, ben vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux le Front d'action collective ou SDHP Sherbrooke, donc Solidarité droits humains pour la Palestine Sherbrooke, où vous allez pouvoir retrouver le rapport facilement.
Ben, Annabelle et Emmanuel, merci à vous deux. Vous êtes inspirantes. Vous êtes des femmes qui a justement la belle relève dans ce merveilleux monde. La semaine prochaine, on va retrouver justement la chronique de 2 semaines du CHIP et aussi revenir sur l'action. On rappelle qu'il y a lieu le jeudi à 11h devant les dés Sainte-Famille. Donc, on va rester à l'écoute, bien sûr, de Saint-Félix tout au cours de la journée. Et on se retrouve donc jeudi prochain pour notre émission Logement, un droit.
Il est midi
58 minutes.
Grande nouveauté sur les ondes de Saint-Félix. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, syntonisez le 95.5 pour le monde du rock la nuit. Du classique rock au pop, en passant par le folk et le métal, tout y passe pour vous tenir réveillé. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, c'est le monde du rock la nuit à Saint-Félix. Votre rendez-vous nocturne en Estrie. C'est Félix présente en projection l'album « Après on va où » de Michel Rivard. Enregistré en grande partie chez lui, avec plus de 50 ans de carrière, l'auteur, compositeur et interprète de 74 ans nous offre des pièces de sujets qu'on lui connaît, comme l'amour, le quotidien, le tout en toute simplicité.